Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde. Retour sur l'actu international de la semaine qui nous emmènera à Washington à quelques jours du scrutin. Le FBI sera-t-il l'arbitre de la rencontre entre Trump et Clinton? Mossoul avec les troupes spéciales irakiennes qui sont entrées dans la ville, mais le chef de l'État islamique appelle ses troupes au martyr. Ankara, le président Erdogan poursuit sa répression tous azimuts contre un parti kurde, contre la presse. Beyrouth, après presque plus de 2 ans d'attente, le Liban, enfin un président, Michel Aoun. Et puis Al-Hosseima au Maroc, où la mort d'un vendeur de poissons suscite l'émotion dans tout le royaume. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Philippe Moreau-Desfarges. Bonjour Philippe.
Bonjour Fabrice.
Chercheur à l'IFRI et auteur de La géopolitique pour les nuls, en poche, entre autres. Hein, on pourrait parler de l'histoire du monde pour les nuls, bien entendu. Corentin Célin, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Corentin Célin, professeur d'histoire, grand spécialiste des États-Unis. Vous enseignez notamment dans le département de la Guadeloupe. Hein. Vous êtes déjà venu nous voir, non pas dans 7 jours dans le monde, mais dans les décodeurs de l'écho. Alors oui, une élection n'est jamais jouée d'avance. Hein. On vous le dit en permanence. Oui, le résultat du scrutin présidentiel de mardi aux États-Unis n'est pas encore acquis. Hein. Oui, la fameuse règle, vous savez, de la surprise d'octobre, hein, finalement, eh bien, c'est encore une fois avéré pour le scrutin 2016. Oui, la campagne, elle est relancée, spécialement donc depuis le week-end dernier, avec ce coup de théâtre, donc, après que le FBI a réactivé l'enquête sur l'utilisation par Hillary Clinton de sa boîte mail perso quand elle était secrétaire d'État. Et l'intéressée, la candidate démocrate, elle trouve bizarre que ça arrive quelques jours avant le scrutin.
Il est plutôt étrange qu'une chose pareille soit publiée, contenant si peu d'informations, juste avant une élection. En fait, ce n'est pas seulement étrange, c'est sans précédent et c'est profondément inquiétant. Car les électeurs méritent les faits dans leur ensemble.
Voilà, alors ça c'est Hillary Clinton qui doute, hein, qui trouve ça étrange en effet. Alors face à elle, évidemment, il en profite. C'est Donald Trump qui n'hésite pas à parler d'un nouveau Watergate.
This is the biggest political scandal since Watergate.
C'est le plus grand scandale politique depuis le Watergate. Et tout le monde espère que la justice pourra enfin être rendue.
Can be properly delivered.
Alors voilà Donald Trump, et résultat, eh bien, dans les sondages hein, de cette semaine, eh bien, Donald Trump au niveau national a pu repasser devant Hillary Clinton de peu, hein, de quelques cheveux. On verra exactement ce qu'il faut en penser. Et dans les intentions de vote, l'écart se resserre dans les fameux états clés. Voilà, c'est là-dessus qu'il faudra vraiment s'intéresser. Corentin Célin, spécialiste de l'histoire américaine, on va juste rappeler, pour essayer de bien comprendre, sur quoi enquête le FBI, c'est quoi ces nouveaux mails? Sont des nouveaux mails ou pas?
Alors justement, le problème, c'est que l'on n'en sait rien,
ah.
Fabrice. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le directeur du FBI, James Comey, a écrit au directeur des commissions d'enquête parlementaires pour leur annoncer que l'enquête qu'il leur avait annoncée comme close au mois de juillet allait connaître un supplément à la suite de la découverte dans une autre enquête qui n'a strictement rien à voir, une enquête pour corruption de mineurs qui touche un ancien représentant démocrate, Anthony Weiner, qui est par ailleurs le mari en instance de divorce de la principale conseillère d'Hillary Clinton.
Uma Abedin.
Exactement. Ouais. Eh bien, dans cette enquête, les enquêteurs du FBI, pour corruption de mineurs, ont saisi des ordinateurs. Et sur un des ordinateurs, ils ont trouvé des traces de mails relatifs à la correspondance entre Abedin et Clinton, qui avait déjà fait l'objet de la première enquête. Et ils ont signalé cela à leur patron, le directeur du FBI, et lui ont dit, nous avons besoin d'un mandat pour enquêter, pour aller chercher ces mails. Et ils ont donné cette information à leur patron. Et le directeur du FBI a estimé qu'il était de son devoir d'informer publiquement les patrons des commissions parlementaires du Congrès.
Alors, il l'a fait. Ça n'a aucun rapport avec des mails qu'on a pu voir par ailleurs révélés par WikiLeaks hein, cette
c'est
fois.
C'est ça. Il faut pas mélanger deux choses. C'est-à-dire que
c'est pour ça que voilà, vous êtes là pour nous.
Depuis
parce que là,
plusieurs
on mélange beaucoup
semaines,
de choses,
hein. Depuis plusieurs semaines, WikiLeaks qui a très visiblement piraté la boîte mail du directeur de campagne de Hillary Clinton, John Podesta, WikiLeaks révèle à intervalles réguliers des échanges de mails interne à l'équipe Clinton et à des échanges de mails qui ont pu aboutir eux aussi à des affaires, à des scandales assez importants. On a vu cette semaine, par exemple, la présidente actuelle du Parti démocrate qui a été obligée de renoncer à son poste d'analyste politique chez CNN parce que elle a clairement été prise dans ces mails-là en ayant donné des questions de débat à l'avance à la campagne Clinton contre Sanders. Donc ça, mais ça, c'est autre chose. Là, on parle de l'enquête qui avait eu lieu du FBI sur les mails d'Hillary Clinton qui ont transité par son serveur privé lorsqu'elle était secrétaire d'État.
Ce qui est interdit, évidemment, parce que des secrets qui pourraient mettre en cause la sécurité des États-Unis pourraient être révélés.
Exactement. Voilà. C'était effectivement le problème.
Et donc, elle peut être poursuivie. L'enquête s'était arrêtée, c'est ça ?
Alors, l'enquête avait eu lieu. Le FBI et son directeur avaient annoncé au début de l'été qu'il n'y avait pas matière à poursuite. Qu'on pouvait parler... Alors, il avait employé des mots forts. Il avait dit « il y a eu une négligence ».
Négligence.
Il y a eu une négligence. Mais il n'y avait pas matière à poursuite pénale parce qu'il n'y avait pas intention de divulguer des secrets d'État. Mais aujourd'hui, voilà, l'enquête est relancée. C'est une sorte de supplément d'enquête parce qu'on est tombé sur ces traces de mails qui étaient sur cet ordinateur dans une toute autre enquête pour qui n'avait rien à voir.
On voit le FBI quand même doublement à la manœuvre parce qu'il y a cette histoire de mails qui auraient transité par la boîte perso, même si on ne sait pas exactement quels sont-ils, et vous nous l'avez dit très bien, Corentin Célin. Enquête également sur une amnistie controversée dont aurait bénéficié un trader. C'était sous Bill Clinton. Cette fois, on vient chercher des poux à Bill Clinton pour taper un peu plus Hillary Clinton. Question toute simple. Le FBI, il est neutre dans cette affaire? Pourquoi James Comey, il annonce cette réouverture d'enquête? Allez, on était le week-end dernier à 10 jours du scrutin. En dépit de toutes les traditions, le FBI n'intervient pas dans une enquête qui pourrait éventuellement influer dans un sens ou un autre le résultat d'une élection. Or là, on est en plein dedans.
Alors, c'est plus qu'une tradition, parce que il y avait même eu un mémo de l'ancien ministre de la Justice, d'ancien Attorney General d'Obama, Eric Holder, qui avait stipulé que désormais le FBI, à 60 jours de l'élection, à moins de 60 jours, ne devait pas intervenir publiquement sur des enquêtes en cours qui pourraient compromettre le résultat électoral. Donc, pourquoi James Comey a désobéi à cette règle, qui lui a d'ailleurs été rappelée, puisqu'on l'a appris par la presse, la ministre de la Justice actuelle d'Obama lui avait demandé de ne pas publier la lettre au Congrès, de ne pas faire cette lettre au Congrès.
Et Obama lui-même s'en est, inquiété, ému cette semaine de l'attitude de son directeur.
Alors, pourquoi le directeur du FBI a fait cela ? Le Wall Street Journal et le Washington Post ont fait des enquêtes très fouillées là-dessus. Première raison, il y a des dissensions très fortes à l'intérieur du FBI entre Comey d'une part, donc qui a un poste politique, qui même s'il était républicain a été nommé par Obama à la direction du FBI, et ses enquêteurs. Une partie des enquêteurs, c'est maintenant de notoriété publique grâce aux journaux, sont très hostiles à Hillary Clinton. Et ils n'ont pas apprécié du tout, visiblement, que le directeur renonce à la poursuivre sur ses mails du département d'État.
Et vengeance.
Alors, on le lit encore ce matin dans le Washington Post. Effectivement, c'est une hypothèse assez forte. Il y a une dissension entre les enquêteurs du FBI et leur directeur. Et en fait, ce qui est certain, c'est qu'ils ont attendu 3 semaines entre le moment où ils ont trouvé les traces de mails, les nouvelles traces de mails, et le moment où ils ont annoncé cela à leur directeur. Donc, en quelque sorte, ils l'ont gardé dans l'ignorance. Et lui, dos au mur, n'avait plus pour se couvrir que comme solution de rendre public. Le supplément d'enquête.
Ça veut dire quoi ? Elle pourrait être arrêtée un jour, Hillary Clinton, élue ou pas élue ?
Alors, ça semble très, 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 très lointain comme hypothèse, pour la bonne simple raison que l'enquête a déjà eu lieu, que comme l'avait dit Comey, il y a eu une extrême négligence, mais qu'une extrême négligence, ça n'a fait pas une intention criminelle. Donc, c'est peu probable. Mais le problème n'est pas judiciaire, c'est un problème politique. C'est-à-dire que ça ramène surtout au principal point faible d'Hillary Clinton dans l'opinion. Hillary Clinton est vue comme quelqu'un de malhonnête, de toujours dans des affaires louches. Et là, forcément, cette affaire réactive ce trait d'opinion, et au plus mauvais moment. C'est donc surtout la symbolique politique qui est importante.
Et pendant ce temps-là, Philippe Mordefer, j'en parle pas du fond.
Exactement. Tout à fait. Non, ce qui frappe dans ce que vient de dire, c'est les pressions extrêmement fortes auxquelles sont soumises les autorités, disons, indépendantes. Et on voit, le directeur du FBI devait révéler ça parce qu'il y a une pression extrêmement forte. Donc, le mur entre l'administration, au sens large du terme, et les opinions publiques disparaît, ou s'efface, devient très poreux.
Ça a une influence, ça va avoir une influence mardi sur le scrutin, cette affaire.
Alors, si on parle des enquêtes d'opinion, ça a eu une influence très forte en début de semaine. On a pu penser à un revirement complet, puisque effectivement, comme vous l'avez rappelé, Fabrice, tout à l'heure, dans l'enquête nationale Washington Post, qui est une enquête vraiment très fiable, très ancienne, ça fait 30 ans que c'est le même sondeur qui fait des sondages pour ABC Washington Post, pour la première fois depuis que le sondage a commencé au mois de mai, il est passé devant, à l'échelle nationale, d'un point. Et là, on s'est dit... Est-ce que, voilà, la lettre au FBI va tout changer? Bon, là, en cette fin de semaine, Clinton a repris un peu le devant. On est revenu à la logique, à une logique un peu plus ancienne où elle domine, on va dire, de 3-4 points à l'échelle nationale. Cependant, cette affaire a quand même confirmé un resserrement qui avait commencé avant, depuis environ 8 jours avant la lettre du FBI. Et ce resserrement, il a une cause première, c'est que finalement, beaucoup de républicains, en se pinçant le nez, en étant pas content, mais ils vont aller voter quand même pour Trump. Et donc, il fait l'unité du camp républicain. Et comme il fait l'unité du camp républicain, bah forcément, ça se resserre. Et là, avec la lettre du FBI, ça se resserre encore.
Ça veut dire quoi que Trump, hein, également, qui est passé à la vitesse supérieure, il a même sorti Melania, donc Madame Trump, cette semaine, dans les meetings, on voit donc chacun fourbit ses armes. Trump, il peut encore espérer, c'est-à-dire qu'on peut avoir, comme il le disait d'ailleurs, il y a une dizaine de jours, une surprise, style Brexit. Comment est-ce qu'il peut encore l'emporter, Trump?
Alors, il peut.
Il reste quoi? 3-4 jours maintenant, ça dépend.
Alors, le désavantage qu'il a par rapport à Clinton, c'est qu'il a beaucoup moins de scénarios possibles de victoire. Mais il a un scénario qui apparaît, qui est improbable, mais qui n'est pas impossible, c'est que très visiblement, il va reprendre certains États où la population blanche working class est très importante, une population blanche working class sans diplôme qui lui est très favorable. On peut penser à des États comme l'Ohio ou l'Iowa qui avaient voté Obama et qui vont sans doute, si on en croit tous les sondages, voter pour Trump. En Floride, même si c'est très 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 serré, il est bien positionné parce qu'il ne faut pas oublier que c'est son état de résidence. On dit souvent Trump le New-Yorkais, mais il habite en Floride, donc il est un peu l'enfant du pays. Donc si on ajoute Iowa, Ohio, Floride, le Nevada, un état où il est aussi très populaire parce que l'état des casinos, il a fait beaucoup de sa fortune dans les casinos, c'est une figure un peu extravagante de ce milieu, il y est très connu et populaire. Donc on en est à 4 états qu'il pourrait ainsi reprendre.
Puis il y a la Caroline du Nord aussi. Hein.
Voilà, alors, mais la Caroline du Nord, ça, il doit la gagner parce que celle-là, elle était déjà dans le camp républicain. Romney l'avait gagnée en 2012, donc il faut la conserver. Il peut reprendre ces 4-là, les 4 que j'ai dit à Obama, et là, il est à 265.
Ouais, il en faut 270.
Il en faut
270 grands électeurs, voilà, c'est la règle, quoi.
Et donc, après, le problème, c'est comment il arrive de 265 à 270. C'est tout le problème pour lui. Parce que là, ensuite, c'est là où il aura du mal. On va dire qu'il y a 2 ou 3 États où lui dit qu'il a encore de l'espoir, comme vous l'avez très bien dit, Fabrice. Il faut pas oublier que là, au dernier moment, il vient de lancer 25 millions de dollars d'achat de publicité pour la dernière semaine, ce qui est colossal, 25 millions de dollars. Et donc, il a ciblé en particulier le New Hampshire, où la course s'est resserrée, donc il y a un petit État qu'on connaît, puisque c'est là où a eu lieu la première primaire, qui pourrait l'amener, s'il le gagnait, à 4 grands électeurs supplémentaires. Donc là, on aurait le scénario à 269-269, mais le New Hampshire est aussi, et ce qui est très intéressant, il cible par exemple maintenant le Michigan, l'État industriel de l'automobile. Parce que c'est vrai que là, l'électorat blanc working class est aussi important. Et incroyable mais vrai, alors que Clinton considérait que cet État était gagné dans la poche, pas de problème, elle est en campagne ce vendredi dans le Michigan parce que les sondages internes montrent que ça se resserre.
Et on voit que les Afro-Américains également vont pas forcément voter Hillary Clinton. Corentin Célin.
Alors, c'est tout le problème. Évidemment, on sort d'une situation où, en 2008 comme en 2012, les Afro-Américains ont voté non seulement à 93-95% en faveur de Barack Obama, mais surtout, ils ont voté en masse, avec une participation bien supérieure à celle d'avant. Tout le challenge pour Hillary Clinton, bien sûr qu'elle va gagner le vote afro-américain, mais c'est pas de gagner le vote afro-américain, c'est de combien d'afro-américains iront aux urnes. Et c'est là qu'il y a effectivement un problème peut-être de mobilisation. On le voit en particulier dans le vote anticipé en Caroline du Nord, état où il y a beaucoup d'afro-américains, et où les afro-américains ont tendance apparemment à se déplacer un peu moins que
Et il y a une autre
Philippe.
Qui sont les latino-américains, les hispano-américains. Et les hispano-américains sont considérés comme acquis à Hillary Clinton. On a vu cette chanteuse soutenir...
Jennifer Lopez. Quand je dis que tout le monde rameute les troupes, Gillo également.
Et il est clair qu'il y a une partie des latino-américains qui peuvent voter Trump parce qu'ils sont aux États-Unis, ils veulent en quelque sorte se protéger eux-mêmes par un mur contre les nouveaux venus.
Et on voit, donc Hillary Clinton branle-bas de combat. combat avec Jennifer Lopez. En effet, tiens, on essaiera de l'entendre quand même tout à l'heure. Hein. C'est le branle-bas de combat. Même dans les États où elle était censée gagner, là, tout d'un coup, on rachète des spots de pub en quantité par mégatonne, hein, Corentin Célin.
Tout à fait. Alors, justement, la campagne Clinton a peut-être fait une petite erreur stratégique. En tout cas, c'est ce qu'on lit beaucoup ces derniers jours, parce qu'elle avait arrêté de diffuser des pubs dans certains états qu'elle considérait gagner. Le Colorado, la Virginie, d'où vient le colistier de Clinton, Kane. Et là, au dernier moment, devant ce resserrement, et puis aussi pour assurer le coup, on relance les dépenses publicitaires. Mais n'aurait-il mieux valu ne pas les arrêter durant l'été? Bon, ça, c'est une question stratégique.
Alors, en tout cas, je le disais, donc, eh bien, l'un fait venir Madame Melania, d'autres Jennifer Lopez, également d'autres artistes. Également, je crois que Bon Jovi est venu également venir à la rescousse d'Hillary Clinton. Et puis, évidemment, le couple... tellement demandé, tellement bankable, justement, comme on dit, hein. Voilà, les Obama, et notamment Barack Obama, qui n'a pas ménagé sa peine tout au long de la semaine pour venir dire pique-pend de Trump.
Donald Trump n'est pas qualifié pour être président. Trump est incapable, par son caractère, d'être commandant en chef. He claims to be a great businessman. Il a toujours revendiqué d'être un grand homme d'affaires. Don't boo. Non, ne le huez pas. Don't boo. Ne le huez pas. Il ne peut pas entendre vos huées, mais il peut entendre vos bulletins de vote.
Voilà, un homme toujours très populaire, il peut peser dans le scrutin, Corentin Célin, Barack Obama, et on a vu comment Michelle Obama aussi était venue à la rescousse il y a une dizaine de jours, en meeting avec Hillary Clinton.
Alors oui, il peut peser, d'autant plus que Barack Obama, en fin de second mandat, retrouve une popularité qu'il n'a quasiment jamais connue durant ses deux mandats. Il est autour, chez Gallup, qui sonde quotidiennement durant tous les mandats la popularité des présidents.
Il est autour décennies,
de... Ouais, il est autour de 55% d'opinion favorable, hein, ce qui est quand même pour un président en fin de deuxième mandat tout à fait remarquable. Donc il est très populaire. En plus, Michelle Obama s'affirme comme une personne publique, a fait un discours remarquable il y a trois semaines, avec toujours cette... Alors ça profite à Clinton, avec cette limite, c'est qu'il faut que ça lui profite, mais pas que les Obama l'éclipsent. Et c'est toute la difficulté.
Oui. Ils ont... Parce qu'il faut exister après. Hein.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est tout le problème. C'est bien, le soutien d'Obama est bon, mais il ne faut pas que Clinton soit éclipsé.
Philippe Moreau-Desfarge.
Barack Obama est un personnage remarquable, et il s'exprime, et c'est il s'est polémiqué remarquablement. Mais est-ce que ce discours ne peut pas être contre-productif? Ce que Donald Trump peut répondre, mais au nom de quoi cet homme me refuse la légitimité d'être président des États-Unis, d'être commandant en chef? Et là, il y a un véritable problème. On voit bien que tout ce système américain basé sur la publicité, c'est un système contrôlé par les élites. Et même, d'une certaine manière, Trump fait partie de ces élites. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe chez l'électeur américain, chez celui qu'on ne voit pas?
Eh ben, vous avez parfaitement raison. Qu'est-ce qui va se passer, Corentin Célin, mardi, au moment où, bon, la plupart des électeurs viendront voter, parce qu'il y a eu en effet des procédures de vote anticipées, hein, qui durent maintenant depuis des semaines. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'électeur, de l'électrice américaine, au moment où il dépose son bulletin de vote pour la présidentielle? Parce qu'il y a également, on va voter également pour le Congrès, les deux chambres du Congrès, hein.
Je crois, Fabrice, en fait, qu'il y a une énorme désillusion avec la démocratie. C'est ce qui ressort de toutes les enquêtes d'opinion et avec cette élection en particulier. Il ne faut pas oublier qu'on a ce paradoxe que les deux candidats sont extrêmement populaires. Alors Trump,
La peste et le choléra, quand même pas.
Alors l'expression est peut-être un peu exagérée, mais quand même, il faut se rendre compte qu'en fin de campagne, Trump aujourd'hui, par exemple, si on prend l'enquête ABC Washington Post que j'évoquais tout à l'heure, il en est à 2/3 d'opinions défavorables. C'est-à-dire 2/3 de personnes qui ne le supportent pas. Et il y a même des gens, visiblement, qui l'aiment pas, mais qui vont quand même voter pour lui par tradition partisane. Mais Clinton n'est pas bien mieux. Elle est, selon les enquêtes, entre 50 et 55% d'opinions défavorables, ce qui est très élevé. Et donc, il y a un découragement des Américains vis-à-vis de leur démocratie. Il y a le sentiment que Trump a aidé à instiller que la démocratie est corrompue, qu'elle est rigged, hein, pourrie, selon son terme fétiche. Et il ne faut pas oublier que parmi l'électorat républicain, selon une enquête Pew qui est parue il y a quelques semaines, maintenant, chez la moitié des électeurs républicains, ils sont convaincus que les résultats électoraux ne seront pas loyaux, que l'élection sera truquée. Donc, ça, c'est très important.
Je voudrais ajouter un facteur qu'on mentionne vraiment. Quel est l'âge des deux candidats? Trump a à peu près 70 ans.
70 ans.
Et elle a fêté ses 69 ans la semaine dernière, voilà. Madame Clinton.
Ce n'est pas la première jeunesse.
J'approuve.
Qu'est-ce qui va se passer mardi soir? Pardon, ce que vous êtes en train de dire, Corentin Célin, vous qui connaissez bien l'histoire américaine, Il va se passer quoi? Imaginons, allez, les deux scénarios. Hillary Clinton l'emporte. Bon, plus ou moins nettement, mais enfin, on se dit qu'elle l'emporte. Et puis, l'autre scénario, Trump l'emporte plus ou moins nettement. Là encore, hein, c'est clair. On va pas se mettre dans un scénario à la 2000 Gore contre George W. Ça veut dire que le résultat peut être contesté de part et d'autre?
Le résultat, il sera contesté. Trump a promis de le contester.
Oui, oui.
Et en tout cas, il n'a pas promis de ne pas le contester. Et ça, même, on lui a demandé plusieurs fois ces dernières semaines, et il a toujours refusé de le faire. Trump a dit qu'il envisageait toutes les voies de recours, y compris légales. Et parce qu'il a un discours qui instille l'idée que le processus électoral est truqué. Il ne faut pas oublier aussi, et ce qui pourrait être source de débordement, qu'il a appelé ses électeurs à aller surveiller les bureaux de vote. Donc, ce qui pourrait être très dangereux et source de débordement assez grave. Donc, c'est une élection à haut risque. Si Clinton gagne, justement, la réaction de Trump va être décisive. Est-ce que c'était des propos de campagne? Est-ce qu'il a joué le tartarin, comme souvent, et que, finalement, il reviendra à la tradition de concessions dignes? Ou bien est-ce qu'il maintiendra? Et là, on entre dans une zone d'incertitude.
Vous savez ce que dit la Bible? Celui qui sème le vent récolte la tempête. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tellement semé la haine aux États-Unis, et notamment quand Obama est devenu président des États-Unis, il fallait entendre les républicains un discours de haine. Et cette haine, elle est là aux États-Unis. Et probablement, elle peut risquer d'exploser, quel que soit l'élu, que ce soit Madame Clinton ou Monsieur Trump. Et Monsieur Trump mobilisera cette haine s'il n'est pas élu.
Et ça va se concrétiser comment? Alors on peut imaginer que, bon, du côté des marchés, ça a déjà commencé. D'ailleurs, les marchés financiers, ça commence un petit peu à s'agiter, à tanguer si Trump est élu. Mais au-delà, donc, il peut y avoir quoi? Des troubles, ça et là, ou pas, Corentin Célin?
Alors oui, déjà le jour de l'élection, il faudra faire attention, parce que ces appels à la surveillance des urnes par Trump à ses électeurs ne préjuge rien de bon.
Rien de bon, ouais.
Mais ensuite, si on est plus concret, je rebondis en fait sur ce qu'a dit Philippe Defarge, il faut voir qu'on est dans une situation de blocage institutionnel qui perdurera, quel que soit le président élu. C'est-à-dire que, et ce sera encore pire si c'est Clinton qui est élu, parce que Clinton va se retrouver, selon toute vraisemblance, avec une chambre des représentants qui lui sera totalement hostile, et peut-être avec un Sénat où la majorité républicaine sera diminuée, mais il est peu probable que les démocrates puissent reprendre une nette majorité. Autrement dit, on va se retrouver dans cette situation où aujourd'hui, il faut rappeler quand même que depuis plus de 8 mois, la Cour suprême n'a un juge en moins parce qu'on n'a pas pu se mettre d'accord. Il faut rappeler qu'il n'y a quasiment plus aucune loi qui a été votée, loi d'importance, depuis 2 ans, parce que tout est bloqué au Congrès, parce que le Congrès veut voulait se faire Obama. Et ça va se continuer. Et donc, on est dans une situation de clivage.
Bon. Alors, au final, tiens, je vous pose la question, parce que c'est Sylvain Rebi, le patron de Kousmiti, qui m'a dit, tiens, c'est un fan de l'émission 7 jours dans le monde, il m'a dit, pose-leur la question, qui va gagner le scrutin mardi? Allez, Corentin Célin, qui va gagner?
Alors, moi, je vais pas mouiller un peu, mais bon, allez, je dis, comme j'ai toujours dit, la démographie électorale favorise Clinton. En ce moment, la dernière semaine, la dynamique est pour Trump. Donc, plutôt bon, petit avantage
Philippe,
Clinton.
Mon roi des
pour jouer le jeu, je vais prononcer une phrase un peu civile. Trump peut ne pas perdre.
Bon,
Trump
peut ne pas perdre. Voilà, en tout cas, eh bien, je le disais, Jennifer Lopez, elle est venue au secours de Hillary Clinton. Voilà, on va se retrouver dans un instant, 7 jours dans le monde, la suite de l'actualité internationale avec les troupes spéciales irakiennes qui sont dans Mossoul. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? À tout de suite avec Philippe Moreau Desfarges et Corentin Célan.
Most of all, I see Americans of every part, every background, every faith who believe that we are stronger together.
We're gonna get out there, folks. We're gonna change things.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
7 jours dans le monde, retour sur l'actu internationale de la semaine sur BFM Business, à la télé, à la radio. Toujours avec nous Philippe Moreau Desfarges, chercheur à l'IFRI, auteur de La géopolitique pour les nuls, en livre de poche également. Et puis Corentin Célin, professeur d'histoire, spécialiste des États-Unis. Vous enseignez dans le département de la Guadeloupe, vous êtes venu ici en métropole pendant le scrutin. Tiens, venez me voir cette semaine dans les décodeurs de l'écho, je pense qu'on va y consacrer quelques émissions évidemment à cette élection américaine. Alors, le reste de l'actualité internationale, et c'est donc fait, et là aussi c'est le gros morceau de l'actu de la semaine, les forces spéciales irakiennes qui sont entrées mardi dans Mossoul après une campagne pour reprendre la grande ville du nord à Daesh, la grande ville du nord du pays, campagne qui avait démarré mi-octobre. Le Premier ministre, il était sur le terrain.
Nous nous rapprochons de Daesh de tous les côtés. Et avec la volonté de Dieu, nous couperons la tête du serpent. Ils n'auront pas d'issue et pas de possibilité de fuir. Ils n'auront pas le choix. Soit ils se rendent, soit ils meurent.
Voilà, le Premier ministre irakien. Alors, il faut évidemment relativiser, bien entendu, la fameuse division d'or, hein, troupes d'élite irakiennes qui contrôlent désormais l'est de la ville. Hein. Mais les djihadistes de l'État islamique tiennent fermement le centre de Mossoul où ils sont massés. Hein. Et le pseudo-calife al-Baghdadi appelait en fin de semaine ses troupes à ne pas se retirer et à mourir en martyr. C'est d'ailleurs le premier message du chef terroriste depuis un an. Philippe Moreau-Desfarges, malgré tout, bon, allez, un cap a été franchi, bien sûr. C'est une étape décisive, l'entrée des Irakiens dans Mossoul.
C'est une étape importante, ce n'est pas une étape décisive. Premièrement, le premier ministre irakien a parlé de serpent. Ce n'est pas un serpent, c'est une hydre. Vous savez que l'hydre, elle a plusieurs têtes, on lui coupe ses têtes, elle repousse. Ça repousse, premièrement. Deuxièmement, il est probable que Daesh a élaboré une forme de stratégie de repli. Laquelle est-elle? Et c'est là, c'est vrai, plus on saura de choses sur ce qui se passe à l'intérieur de Daesh, plus ce sera utile. Mais il est clair que Daesh est sur une stratégie de repli. Troisième point qui est important, quel est l'élément nouveau dans les derniers mois de cette guerre? Ce n'est pas l'islamisme. L'élément nouveau, c'est les Kurdes. C'est l'imposition du fait kurde. Et là, on fait un aller-retour entre l'Irak, Mossoul et la Syrie. Et la Turquie. Et on voit bien que derrière cela, il y a les Kurdes. Et ça va être un véritable défi. C'est que les Kurdes vont demander le prix de leur combat. Et le prix de leur combat, c'est une forme d'indépendance.
La Syrie aussi était concernée. C'était pas une erreur, en effet. C'est vrai que vous avez raison. C'est intéressant de voir comment les troupes d'élite irakiennes ont conquis rapidement l'est de la ville. En avance sur les autres forces engagées dans la reprise de Mossoul, au nord, à l'ouest, au sud. On a à la fois donc des troupes kurdes et des troupes chiites iraniennes aussi. C'est un peu, allez, le premier arrivé qui va marquer quelque part de son sceau l'influence à venir lorsque toute la ville sera contrôlée.
Sous réserve que le premier arrivé tienne la ville.
Ah, c'est toujours pareil.
Est-ce que cette reprise de la ville ne va pas provoquer d'autres combats? Et il est très certain que je pense que les Kurdes ne se laisseront pas faire. Si vous voulez, c'est trop important pour eux. Et c'est vrai que, à l'inverse, leurs adversaires partenaires, c'est-à-dire les Irakiens, etc., vont essayer de bloquer il y a véritablement, au-delà de l'affaire de Mossoul, il y a véritablement la question des frontières du Moyen-Orient et toute cette question extrêmement délicate d'un éventuel État kurde.
Voilà, ça c'est exactement ce que nous disait Frédéric Ancel, qui était avec nous la semaine dernière dans 7 jours dans le monde. On ne retrouvera jamais les frontières irakiennes nées des années 1930.
Alors, quelles frontières?
On va y revenir avec vous dans un instant. Corentin Célin.
Oui, mais je voulais juste aller dans ce sens. Il faut quand même se rendre compte que ce combat à Mossoul, en fait, c'est un des éléments, un des épisodes du redécoupage qui est en cours des frontières qui sont héritées, en fait, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, de tout ce partage du Moyen-Orient tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui a été fait entre les accords Sykes-Picot en 1916, puis jusqu'au traité de Lausanne en 1923 qui a créé la Turquie actuelle. Et en fait, on voit qu'on met fin à un siècle de frontières qui avaient été figées en quelque sorte par les colonisateurs d'époque ou les puissances à prétention coloniale. Et aujourd'hui, on va un peu vers l'inconnu. On ne sait pas du tout ce sur quoi va aboutir ce combat de Mossoul par rapport à ces frontières.
D'où cette inconnue complète autour de Mossoul. Oui,
tout à fait.
Il y a la bataille, mais c'est surtout l'après maintenant.
Mais exactement, c'est surtout l'après. Et espérons qu'à Mossoul, il y aura un accord, mais il n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'accord entre les vainqueurs et qu'on assiste à une nouvelle bataille. Et bien sûr, Daesh parie là-dessus.
Alors oui, alors les djihadistes, ils sont quoi? 3000, 4000, 5000, hein. Ils vont se battre. Ils ont d'ailleurs commencé, bien entendu.
Ils n'ont rien à perdre.
Mais ils n'ont rien à perdre. De toute façon, ils vont le faire dans les conditions les plus sordides, en tuant un maximum de monde, en prenant des otages. Message de al-Baghdadi, je le disais, donc le pseudo-calife qui est réapparu, donc en tout cas publiquement, depuis un an. On ne sait pas toujours où il se trouve. Certains le voyaient à Mossoul, d'autres pas. Enfin, on ne sait pas d'où il a envoyé son message. Le fait comme ça qu'il appelle à ne pas se retirer, à mourir en martyr. Message de détresse ou pas quand même pour al-Baghdadi, Philippe Moreau-Desfarges?
Cet homme ne connaît pas la détresse, il ne connaît que la rage et la colère. Donc je pense que c'est un message de maintien de mobilisation, et je pense que derrière ce message, il cache quelque chose. Il y a un message d'appel à mourir, mais je pense que cet homme veut faire survivre Daesh. Il veut faire survivre lui-même, son mouvement, ce pseudo-califat. Donc, il est probable qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, des stratégies d'orbite. Donc, à l'intérieur de Mossoul, on va multiplier, ils vont multiplier les actions de retardement, ils ont accumulé des dans les souterrains, ils ont de la nourriture. Et puis, il y a une partie des forces qui essayent de se replier.
Maintien de la mobilisation, ça veut dire quoi? Qu'il subit, il commence à connaître certaines défections au sein de son mouvement?
Le mouvement est clairement en crise, d'abord, premièrement, yes. Vous savez, un mouvement a besoin de victoire. Là, c'est quand même une défaite. Bon. Deuxièmement, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de déçus. On sait qu'en France reviennent des gens qui sont pas tout bordel. Et à nouveau, on ne peut pas régner que par la terreur. Si vous voulez, un régime qui ne règne que par la terreur, et c'était le cas de Daesh, ça ne marche pas. Il faut quelque chose de plus. D'ailleurs, Daesh le savait, puisqu'à une époque, ils avaient essayé de bâtir une forme d'État-providence. Enfin, très rudimentaire. Mais on voit bien que Daesh... Et dans ces situations, bien sûr, la terreur va augmenter. Si vous voulez, ils n'ont plus qu'un moyen, c'est la terreur. Alors, est-ce qu'ils peuvent s'autodétruire? Ce n'est pas impossible, mais attendez, il y a pas que Daesh, il y a Al-Qaïda, il y a d'autres mouvements. Donc, je rappelle.
Les fameux rebelles qui combattent donc à Alep, c'est une émanation d'Al-Qaïda, bien
tout
entendu.
Hein. Ce n'est pas un serpent, c'est une hydre.
Ouais, comme vous le dites. Juste un mot aussi, le fait que les troupes irakiennes soient rentrées dans Mossoul. Ouais. Signe d'une renaissance de l'armée irakienne, justement, qui avait été complètement défaite il y a 2 ans, lorsque Daesh était rentré dans Mossoul. Ils étaient rentrés comme dans du beurre, hein. Tout le monde s'était barré comme des lapins.
Alors, c'est signe d'une renaissance, bon, premièrement. Deuxièmement, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que derrière cette libération de Mossoul, il n'y a pas des accords secrets. C'est-à-dire, notamment, je pense que les États-Unis, notamment les Occidentaux, ont dû faire d'énormes pressions, en particulier sur les Kurdes, pour laisser les forces irakiennes. Il faut montrer que l'Irak, l'État irakien existe.
Et là,
on retrouve le conflit entre la volonté de faire exister cet État irakien, qui a beaucoup de mal à exister depuis 2003, depuis la chute de Saddam Hussein, et de l'autre côté, des Kurdes qui probablement veulent un morceau de l'État irakien.
Ouais, alors oui, Corentin Célin.
Oui, comme on évoque la guerre d'Irak de 2003, etc. Et juste par rapport à la première partie de notre débat, on se rend compte en écoutant Philippe Moreau de Farge quand même de l'écart entre la profondeur des questions qui se posent actuellement au Moyen-Orient et la complexité du futur qui se dessine et la presque, il faut le dire, nullité du débat.
Vacuité du débat américain.
C'est-à-dire que les États-Unis ont quand même toujours le rôle d'hégémone, de puissance hégémonique mondiale. C'est eux quand même qui font encore la pluie et le beau temps dans la plupart des régions du monde. Et en fait, si on regarde le débat sur l'Irak, c'est cantonné à savoir qui avait été favorable ou pas à la guerre en Irak en 2003, ce qui est un débat aujourd'hui un peu périmé.
On a 2016.
Et sur le point de vue des solutions, on ne sait pas du tout, que ce soit Clinton ou Trump, où on va aller par rapport à la profondeur des questions.
Un mot, parce que j'aimerais qu'on parle de la Turquie. Philippe Moreau des Farges.
J'ai envie de dire, si Clinton est élu président des États-Unis, n'oubliez pas qu'elle a une espèce d'obsession du côté de Poutine. Si Trump est élu président des États-Unis, il essaiera d'avoir un bon rapport avec Poutine. Et n'oubliez pas que Poutine va vouloir être un acteur clé dans ce jeu. Et il faut qu'aussi l'Occident sache quel est son ennemi.
Il a raison, Philippe, de poser cette question. On aurait pu la poser tout à l'heure, on manquait de temps. Oui ou non, la Russie a-t-elle choisi Trump? Oui ou non, la Russie a-t-elle interféré dans l'élection américaine? Hystérie, répondait Vladimir Poutine il y a une dizaine de jours lors d'un forum international. Bon, il y a eu des attaques informatiques contre le camp démocrate, il y a eu des propos de Trump plaidant pour de meilleures relations avec Poutine. Juste un mot, parce que j'aurais qu'on aborde cette répression qui se poursuit, qui s'aggrave en Turquie.
Alors oui, juste un mot. Aujourd'hui, le Washington Post fait encore un article en une là-dessus. Beaucoup d'hommes du renseignement, d'experts du renseignement, voire de personnes qui sont en place dans l'appareil de renseignement américain, ont dit qu'il y a eu clairement une interférence de la Russie avec le processus électoral et très clairement en faveur de Trump. Ça paraît assez évident et très logique par rapport aux idées défendues.
Sure.
Enfin voilà, c'est aussi de la géopolitique.
Hillary Clinton, elle défend une ligne dure, face à la Russie sur le dossier ukrainien et sur le dossier évidemment syrien. Alors la Turquie, dont on parlait, qu'on a commencé un petit peu à effleurer à propos justement des zones d'influence, son président Erdogan qui poursuit donc sa répression, ses arrestations engagées donc massivement depuis la tentative de coup d'État donc du mois de juillet dernier, donc échec du coup d'État. Alors il y a eu la garde à vue de dirigeants et de députés du HDP, c'est-à-dire c'est un parti pro-kurde, c'est quand même la troisième force parlementaire en Turquie. Et puis donc l'arrestation du rédacteur en chef de plusieurs journalistes d'un grand quotidien d'opposition, Cumhuriyet, dans le cadre d'une enquête, pour activité terroriste en lien avec la bête noire du président Fethullah Gulen et avec le PKK. Alors on a vu un certain nombre de responsables européens donc s'indigner de la méthode de la Turquie, le président du Parlement européen Martin Schulz, madame Mogherini, la chef de la diplomatie. Pour le parti pro-kurde, les arrestations, elles marquent la fin de la démocratie. Oui ou non, Philippe Moreau-Desfarge, fin de la démocratie en Turquie?
Oui, la démocratie est très menacée. Pourquoi? Erdogan est dans une logique de guerre. Il est dans une logique de guerre. Et au fond, dans cette logique de guerre, il s'agit de combattre un peu tout le monde. Mais il y a un ennemi privilégié. L'ennemi central, ce sont les Kurdes. On retrouve toujours les Kurdes. Pourquoi? Parce que la population kurde en Turquie, c'est environ 20 millions d'habitants. En fait, c'est très difficile. Et surtout, le territoire kurde, c'est une partie de la Turquie. C'est-à-dire que s'il y a un État kurde, la Turquie va perdre tout un morceau de son est. Donc, il y a un véritable problème.
Oui, mais Philippe Moreau-Desfarge, est-ce que les Kurdes n'ont pas bon dos, justement? Alors oui, bien sûr, il y a eu ce vendredi matin encore une attaque meurtrière dans la ville de Diyarbakir, c'est-à-dire dans l'extrême est de la Turquie, avec de nombreux morts, une attaque du PKK, très bien. C'est un mouvement donc terroriste, le PKK, ses responsables sont en prison. Mais ça ne fait pas tout le Kurdistan.
Mais vous avez tout à fait raison. Mais ce n'est pas le problème d'Erdogan. Erdogan s'est mis dans une logique de guerre depuis ce coup d'État. Et donc, il lui faut un ennemi. Et c'est vrai que le premier ennemi qui s'impose, il y en a deux, parce qu'il y a Gulen aussi, mais le premier ennemi qui s'impose...
Alors, Gulen, c'est le prédicateur qui se trouve aux États-Unis, qu'on a accusé d'être derrière le coup d'État du mois de juillet, Bon, lui a nié, bien entendu.
Mais l'ennemi numéro un est évidemment... ce sont évidemment les Kurdes. Pourquoi? Parce que les Kurdes, s'ils arrivent va exister politiquement, peuvent contribuer au démantèlement de la Turquie. Et de ce point de vue-là, Erdogan est bien l'héritier de Mustafa Kemal, traité de Lausanne que vous avez évoqué tout à l'heure. Il veut essayer de préserver l'intégrité territoriale de la Turquie. Et là, il y a un véritable problème. C'est pour ça qu'il veut s'attaquer aux Kurdes.
Et pourquoi ça s'emballe en ce moment? C'est-à-dire qu'on parle quand même de dizaines de milliers de limogeages, d'arrestations également, mais dans tous les milieux. Là, on a parlé donc des partis kurdes, des partis pro-kurdes, on a parlé du journal Cumhuriyet, donc fondé en 1924. C'est un vieux grand quotidien, Cumhuriyet, purge également dans l'éducation, dans la justice, dans la police, et par dizaines de milliers. Corentin Célin.
Oui, mais je crois qu'il faut là aussi reprendre peut-être un peu de champ historique. Il faut se souvenir qu'il y a encore 20 ans, l'ancien parti islamiste qui était arrivé au pouvoir, le Réforme, avait été écarté par une sorte de coup d'État virtuel par l'armée, puisque l'armée contrôlait encore tout. Et que tout le projet politique de Recep Tayyip Erdogan, ça a été depuis cette époque de reformer le visage de l'islamisme turc de manière...
Ça, c'est un peu l'ancêtre de l'AKP qui se trouve au pouvoir maintenant sous Erdogan.
Et Erdogan a présenté un visage au début plus affable, plus pro-européen, plus centriste. Et puis, progressivement, surtout depuis son accession à la présidence, il essaie de se débarrasser du contrôle par l'armée garante de la laïcité, garante de la République laïque. Il cherche à se débarrasser du contrôle de l'armée et le coup d'État a été une occasion en or. Et là, il purge.
Il y a un autre mot que je voudrais utiliser. C'est une logique de terreur. Il est dans une logique de terreur. Comme la terreur en France, dans la France révolutionnaire, il y a une sorte de processus dans lequel Erdogan est l'auteur, mais il est pris dans ce processus qui est de détruire l'ennemi. L'armée est un ennemi.
La presse est un ennemi.
La presse est un ennemi.
170 organes de presse fermés depuis le mois de juillet, une centaine de journalistes arrêtés. Pour exister en Turquie en 2016, il faut prêter allégeance au président Erdogan.
Exactement. Et je pense que le processus de terreur, d'arrestation va continuer. Et Erdogan est pris là-dedans. Il est pris là-dedans.
7 jours dans le monde, on va retrouver Philippe Moreau-Desfarge, Corentin Célin. À suivre, le Liban qui sort de sa crise, un président de la République enfin après plus de 2 ans. Et puis le Maroc dans le trouble après la mort d'un vendeur de poissons. On va vous raconter ça, à tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et pendant quelques minutes encore, il y a Corentin Célin qui est professeur d'histoire dans le département de la Guadeloupe, dans les Antilles françaises. Je ne sais pas si on nous suit là-bas, BFM Business, probablement par Internet, évidemment,
tout est
bien pratique, bien entendu. Spécialiste des États-Unis, bien d'autres choses. Et puis Philippe Moreau-Desfarge, chercheur à l'IFRI, auteur de la géopolitique pour les nuls, l'histoire du monde pour les nuls. Enfin, un président pour le Liban. Voilà, ça faisait 2 ans et demi quand même. 2 ans et demi, le Parlement libanais au bout de 46 tentatives a réussi à élire à la tête de l'État, eh bien, le chrétien Michel Aoun. Alors, c'est pas un débutant. Il a 82 ans. Michel Aoun, on le connaît. C'est l'ancien général Aoun, commandant en chef de l'armée, premier ministre par intérim, exilé en France pendant 15 ans. D'ailleurs, tiens, son premier discours de président, il est allé, à destination de l'armée.
Ce sera ma principale priorité, d'allouer des ressources à l'armée, afin d'être capable de faire face à toute menace qui pèse sur notre pays, pour sécuriser notre pays, son indépendance et sa souveraineté.
Voilà, le nouveau président de la République libanaise, Michel Aoun, donc 82 ans. Alors, il va falloir nous expliquer, laissez-moi le temps juste de planter le décor, Philippe, et puis je vous reviens juste après, parce que c'est toute la complexité libanaise qui ressort finalement dans cette élection. Alors, Michel Aoun, il avait mené dans les années 80-90 une guerre de libération contre l'armée syrienne de Hafez el-Assad, qui occupait donc le Liban avant de partir en 2005. Michel Aoun, il est soutenu depuis des années maintenant par le Hezbollah, allié à qui ? À la Syrie de Bachar al-Assad, le fils du père qui avait, contre qui avait combattu Michel Aoun. Michel Aoun qui a bénéficié ces derniers jours à la fois du soutien, on va même parler du revirement hein, de son ennemi, l'ancien premier ministre sunnite Saïd Hariri, bête noire du Hezbollah. Tiens donc, voilà, plein de contradictions. Saïd Hariri nommé premier ministre et bénéficié du soutien de son rival au sein de la communauté chrétienne, Samir Jaja. Oui, c'est à n'y rien comprendre.
Mais si, c'est très simple. Michel Aoun a pour modèle De Gaulle. Il est le De Gaulle libanais. Bon. Donc, ce qu'il peut dire aujourd'hui, premièrement, le système libanais a tenu. La preuve, je suis le président de la République. Deuxièmement.
Deux ans et demi.
Deuxièmement, moi, j'incarne l'unité nationale. La preuve, j'arrive à me réconcilier avec mes.
Consensus. Pays. Voilà.
Exactement, consensus. Je vais être le De Gaulle libanais. Et les années, il est un peu le De Gaulle libanais. Avec une difficulté. C'est que le Liban n'est pas la France et que le Moyen-Orient n'est pas l'Europe. Bon, voilà cette difficulté. Mais à nouveau, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le Liban. Et j'ai envie de dire, bravo Michel Aoun.
Et alors ce...
Par ce sens de la survie, quel sens de la survie ?
Oui, alors ce consensus, j'allais dire ce mélange, oui. Parfois hétéroclite, derrière Michel Aoun et puis derrière le nouveau Premier ministre, Saïd Hariri aussi, hein, qui a pu bénéficier aussi de soutien au Parlement de force qui lui était jusqu'à présent ennemi. Est-ce que ça va apporter un petit peu de stabilité donc à ce pays qui est à la fois dans la crise politique, on l'a vu, la crise économique et la crise des réfugiés, hein, qui accueille 1,5 million de réfugiés venus de Syrie, le pays voisin.
Fabrice Lanis, ce qui est fascinant à la fois, c'est ce que vous évoquez, mais ce qui est aussi fascinant, c'est la capacité de ce pays à survivre. Et ce système institutionnel que tout le monde critique parce qu'il est complètement bricolé, il était bricolé en partie par les Français en 1943, avec qui fait chaque une place à chaque communauté, ce système, il tient le coup malgré tout. Et le Liban, alors, peut-être le Liban peut s'effondrer demain, mais disons, depuis les années... Quand on regarde ce qu'a vécu le Liban...
75-90, la guerre civile, 15 ans, mais c'est épouvantable. L'occupation syrienne, israélienne.
Exactement. Ils tiennent le coup. Souhaitons leur bonne chance. Et souhaitons bonne chance à Michel Aoun.
Faut juste rappeler, hein, au Liban, il y a quelque chose qui est gravé dans le marbre. Hein. Les trois principaux postes de l'État, ils sont dévolus aux plus importantes communautés. Le président de la République, c'est un chrétien. Le premier ministre, c'est un musulman sunnite, donc Saïd Hariri. Et le président de l'Assemblée nationale, c'est un musulman chiite, le Hezbollah, donc grand parti libanais.
Oui, mais ce qu'il faut ajouter, c'est que ces trois communautés ne sont pas du tout en équilibre. Mmh. La communauté chrétienne qui détient la présidence de la République est une communauté en diminution, puisque beaucoup de chrétiens
démographiquement,
sont partis et vivent notamment en France. La communauté sunnite, elle est à peu près ça. Mais la communauté qui a explosé, c'est la communauté chiite.
Et puis accessoirement, on dira que les grandes puissances de la région, eh bien, ne sont pas lésées, puisqu'ils ont chacun un allié de poids à la tête de l'État libanais. Le général Michel Aoun maintenant, allié au Hezbollah, donc l'Iran, et puis donc comme Premier ministre, Saïd Hariri, sunnite, plutôt proche de l'Arabie Saoudite.
Mais ça prouve le génie du Liban.
Bon, allez, le Maroc pour terminer, hein, énorme émotion après la mort d'un vendeur de poissons le week-end dernier, Moussine Fikri, c'était son nom, à Al Hoceima, c'est une ville côtière du nord du pays, on est sur la Méditerranée. Hein. Les images diffusées sur Internet, elles sont terribles, évidemment, on ne va pas vous les montrer, on voit le malheureux qui est mort, broyé par une benne à ordures, alors qu'il tentait apparemment de récupérer sa marchandise jetée par des agents de la ville. Manifestation fleuve dimanche dans la ville pour dénoncer, je cite, l'arbitraire, pour dénoncer l'humiliation du peuple du Rif par le palais royal, cortège également à Casa, à Marrakech, à Rabat.
Ce qui est arrivé à Moussine Fikri peut et est déjà arrivé à plein d'autres Marocains. Les autorités nous humilient et nous rabaissent.
Ça ne devrait plus exister en 2016. Cette façon dont la police tue les gens, nos aînés sont habitués à ça, mais nous ne pouvons pas l'accepter.
À chaque fois, la police tue les plus défavorisés, avec pour excuse qu'ils ont fait quelque chose d'illégal. À chaque fois, cela arrive aux gens les plus honnêtes. C'est pour ça que je manifeste.
Voilà la colère de ces Marocains et ces Marocaines. Alors le souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc a lui-même réagi en ordonnant une enquête. Une dizaine de personnes ont été interpellées. Qu'est-ce que ça révèle, cette tension, Philippe Moreau Desfarges?
Le roi du Maroc, il est sur un baril de dynamite. Il est un survivant dans une région où tous les dirigeants ont été balayés. Bon, il est là, il a une certaine légitimité. Il veut, bien sûr, rester au pouvoir. Et il sent.
Oui, mais les Marocains, les Marocaines ne réclament pas forcément un changement de régime. Parce que certains ont pu faire le parallèle avec Sidi Bouzid, décembre 2010, avec ce malheureux vendeur de fruits et légumes en Tunisie, qui avait été brimé, qui s'était immolé. Et ensuite, on avait vu donc le départ de Ben Ali.
Fabrice l'a dit, ce n'est pas le problème des revendications des gens, c'est l'engrenage. Ouais. C'est-à-dire que à partir de cet événement, comme en Tunisie, tout peut s'enflammer. En Tunisie, au départ, il n'y avait pas de demande de changement de régime, mais tout peut s'enflammer. Et on comprend que les autorités marocaines et le roi du Maroc soient très inquiets.
Il est assez pragmatique. On l'a vu encore, les élections se sont déroulées normalement. Il y a 15 jours, 3 semaines, avec le PJD, c'est-à-dire Parti Islamiste, qui s'est succédé à la tête du gouvernement, donc avec le Premier ministre Abdelilah Ben Kiran, qui est revenu. Oui. Les deux travaillent en étroite collaboration.
Mais c'est formidable tout ça. Mais ça prouve qu'en même temps, plus ces partis élus travaillent ensemble, plus, ce qui est terrible, ils perdent de représentativité. Parce que
Ils se coupent de la base.
Voilà, exactement.
Allez, un mot de la fin.
C'est l'histoire infernale.
Corentin Célin.
Sur les deux derniers dossiers qu'on vient de voir, on doit quand même.
Liban et Maroc.
Ouais, Liban et Maroc.
Faites le parallèle.
Non, je ne fais pas de parallèle, mais en tout cas, ce sont des dossiers où la France se retrouve à chaque fois au premier plan, en tant qu'ancienne puissance coloniale.
Tutélaire.
Justement, un peu comme on nous parlait aux États-Unis, la France, pour l'instant, on n'entend pas trop, si je ne me trompe pas, on n'entend pas trop de réactions. Oui. Voilà.
Où est la voix de la France? Voilà, en tout cas, sur ces dossiers.
Allez, je dirais, il ne faut pas trop suivre les affaires intérieures des États.
Bon. Merci Philippe Moreau Desfarges, chercheur à l'IFRI, auteur de la géopolitique pour les nuls. À très bientôt. Et puis Corentin Célin, tiens, repassez-nous voir dans les décodeurs de l'écho. Donc, cette semaine, mardi ou mercredi, on verra émission spéciale à l'occasion du scrutin américain, puisque vous êtes professeur d'histoire spécialiste des États-Unis. C'est fini pour 7 jours dans le monde sur BFM Business.
BFM Business, 7 jours dans le monde.